Un autre 11 septembre. 11 septembre 1973. Santiago du Chili.
Aujourd'hui 11 septembre 2022. Il est 9h12 sur Alternante FM. Nombreux sont les médias qui aujourd'hui vous ont déjà remémoré les attentats suicides islamistes perpétrés le 11 septembre 2001 dans le centre de Manhattan à New York, provoquant la mort de près de 3000 personnes.
Un autre 11 septembre, en 1973, 49 ans jour pour jour, fut tout aussi dramatique, cette fois contre le peuple chilien. À l'aube du 11 septembre 1973, l'armée chilienne commandée par le général Pinochet renversait et conduisait au suicide le président socialiste Salvador Allende, démocratiquement élu 3 ans plus tôt, le 4 septembre 1970. C'était l'aboutissement d'une lutte sans merci unissant dans la haine du pouvoir en place et sous l'œil bienveillant des États-Unis, une droite irréductible, un patronat radicalisé et une petite bourgeoisie apeurée. C'était le début d'une longue et sanglante dictature qui dura jusqu'en mars 1990. Aujourd'hui, Alternante bouleverse ses programmes habituels pour vous faire connaître ou remémorer ce que fut ce 11 septembre 1973. Pourquoi un tel coup d'État et quelles en furent les conséquences au Chili?
Bruno, Michel, Rachel, Ignacio, François, Ariel et moi-même Joséphine, de nombreux amis chiliens et bien d'autres vous feront revivre tout ça. Cet après-midi, on écoutera en live dans les studios d'Alternante, le groupe chilien Kimsa. Didier Royan nous lira des poèmes et textes chiliens. Écoutons dès à présent un grand chanteur chilien, Victor Jara, assassiné par l'armée chilienne le 16 septembre 1973. La...
seguir caminando, ojalá encuentre camino para seguir caminando. Es difícil encontrar en la sombra cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Tiempo estoy llegando, desde cuando me habré ido, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando.
Il y a 49 ans jour pour jour. Il est 5h45 ce 11 septembre 1973, lorsque les services de renseignement neutralisent les téléphones, télégraphes et radios dans la province de Valparaiso. Le coup d'État a commencé au Chili. Réveillé, le président Salvador Allende tente sans succès d'entrer en contact avec les putschistes. Vers 7h, la capitale est déjà en grande partie passée sous leur contrôle. Allende s'adresse à la nation par la radio et annonce son intention de défendre le gouvernement qui représente la volonté du peuple. Un avion est mis à sa disposition, il refuse de fuir. Menacé de bombardement, il refuse également de se rendre. Dernier discours du président Salvador Allende, prononcé peu avant sa mort et retransmis par Radio Magallanes.
C'est certainement la dernière fois que j'aurai à m'adresser à vous. La force aérienne a bombardé les tours de Radio Portales et de Radio Corporación. Mes paroles ne sont pas marquées d'amertume mais de déception. Et seront le châtiment moral de ceux qui ont trahi leur serment. Les soldats du Chili, les commandants en chef titulaire et l'amiral Merino. Qui s'est promu lui-même. Sans oublier M. Mendoza, général perfide qui, hier encore, manifestait sa fidélité et sa loyauté au gouvernement. Et aujourd'hui vient de s'autoproclamer directeur général des carabiniers.
Manifestar la solidaridad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del gabinete.
Devant ces faits, il n'y a qu'une seule chose que je puisse dire aux travailleurs. Je ne démissionnerai pas. Placé à un tournant historique, je paierai de ma vie la loyauté du peuple. Et je suis certain que la semence déposée dans la conscience digne de milliers et de milliers de Chiliens ne pourra être arrachée pour toujours. Ils ont la force. Ils pourront asservir. Mais les processus sociaux ne s'arrêtent avec le crime, ni avec la force. L'histoire nous appartient. Et ce sont les peuples qui la font. Travailleurs de ma patrie. Je tiens à vous remercier de votre loyauté de toujours. De la confiance que vous avez déposée en un homme, qui ne fut que l'interprète des grands désirs de justice, qui donna sa parole de respecter la Constitution et la loi, et qui l'a tenue. Dans cet instant ultime, le dernier où je puisse m'adresser à vous, je vous demande que vous mettiez à profit cette leçon. Le capital étranger et l'impérialisme, unis à la réaction, ont créé le climat pour que les forces armées rompent leur tradition. Celle que leur enseigna le général Schneider et que réaffirma le commandant Areille. Qui tombèrent victimes de la même couche sociale qui, aujourd'hui, attend bien au chaud qu'une main étrangère lui rende le pouvoir. Pour continuer à défendre ses profits et ses privilèges. Je m'adresse tout d'abord à la modeste femme de notre terre, à la paysanne qui a cru en nous, à l'ouvrière qui a travaillé plus, à la mère qui a compris de notre préoccupation pour les enfants. Je m'adresse aux travailleurs des professions libérales, qui ont eu une conduite patriotique, à ceux qui ont agi contre la sédition encouragée par les organisations corporatives. Ordre de classe qui ne cherche qu'à défendre les avantages que la société capitaliste n'accorde qu'à une poignée. Je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui chantèrent, communiquèrent leur joie et leur esprit de lutte. Je m'adresse à l'homme du Chili, à l'ouvrier, au paysan, à l'intellectuel, à tous ceux qui seront persécutés. Car dans notre pays, le fascisme s'est déjà fait connaître depuis longtemps dans les attentats terroristes. Faisant sauter les ponts, coupant les voies ferrées, détruisant les oléoducs et les gazoducs, bénéficiant du silence de ceux qui avaient l'obligation d'assurer la défense. L'histoire les jugera. Radio Magallanes sera sûrement réduite au silence. Et le son tranquille de ma voix n'arrivera plus jusqu'à vous. Peu importe. Vous continuerez à l'entendre. Je resterai toujours à vos côtés. Mon souvenir sera au moins celui d'un homme digne, qui fut fidèle à la loyauté des travailleurs. Le peuple doit se défendre, mais pas se sacrifier. Le peuple ne doit pas se laisser cribler ni écraser, mais il ne doit pas non plus se laisser humilier. Travailleurs de ma patrie, je crois au Chili et en son destin. D'autres hommes sauront dépasser ce moment gris et amer où la trahison prétend s'imposer. Allez de l'avant et sachez que dans un avenir plus proche que lointain, s'ouvriront à nouveau les larges avenues par où s'avancera l'homme libre pour construire une société meilleure. Vive le Chili! Vive le peuple! Vive les travailleurs! Celles-ci sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas inutile. J'ai la certitude qu'il sera tout au moins une leçon morale pour châtier la félonie, la couardise et la trahison.
C'était le dernier discours de Salvador Allende le 11 septembre 1973.
À 9h10 commence le mitraillage par des tanks du palais présidentiel de la Moneda à Santiago. Sa garde résiste. À midi, des avions de chasse bombardent le bâtiment. À 14h, une délégation de ses occupants munis d'un drapeau blanc sort pour organiser la reddition. Le président Salvador Allende se suicide à l'aide de son pistolet mitrailleur. Le putsch triomphe. Fin d'un songe de 3 années, début d'une nuit de près de 20 ans.
La répression qui s'abat sur le Chili avec le coup d'État est à la fois sanglante, profonde, multiforme et durable. L'état de siège est immédiatement instauré. Le général Pinochet, dont le monde découvre le visage caricaturalement chaussé de lunettes noires, concentre tous les pouvoirs. Le Parlement est dissous, les libertés syndicales suspendues, les partis politiques et la presse de gauche interdits. Près de 100 000 personnes sont arrêtées. Les stades deviennent lieux de détention et d'exaction. La terreur est aussi bien l'œuvre de l'armée elle-même que de groupes paramilitaires tels la « Caravane de la mort », qui sévit dès octobre 1973 ou d'une police politique créée dans les mois suivants, la DINA. Journal TV Antenne 2 du 11 septembre 1980.
Et je m'appelle Klas Kroner.
Un économiste suédois présent à Santiago en septembre 1973 témoigne.
Et je suis arrivé au Chili en 68 avec un contrat des Nations Unies. J'ai été fait prisonnier vendredi dernier, le 14 septembre, en train de déjeuner dans ma maison. Sans doute par une infidence des voisins. Voilà comment ça s'est passé. On m'a amené assez brusquement, évidemment, à la station de police la plus proche, où j'étais battu, pas fortement dans mon cas. Là déjà, j'ai vu des gens battus d'une manière assez féroce. Un jeune étudiant chilien qui avait reçu un coup de balle au dos a été savagement battu. Les policiers ont sauté à l'endroit du dos où il avait la blessure, en se riant de lui. Par la suite, trois heures plus tard, on nous a amenés dans un bus, un micro des carabiniers, c'est-à-dire la police paramilitaire chilienne, au stade national. Nous étions amenés couchés par terre, et en regardant le plafond, et sans possibilité de bouger, et sous peine d'être frappés dessus par les crosses ou recevoir des coups de pied dans le dos ou dans la tête. Même histoire au stade national, où heureusement, dans mon cas, s'est produit l'intervention de mon ambassadeur, ce qui sans doute m'a sauvé la vie.
Soutien de Salvador Allende, Victor Jara a été arrêté le 11 septembre et enfermé, comme d'autres Chiliens, dans le Stade National. On amena Victor et on lui ordonna de mettre les mains sur la table. Dans celle de l'officier, une hache apparut. D'un coup, c'est qu'il coupa les doigts de la main gauche, puis d'un autre coup, ceux de la main droite. On entendit les doigts tomber sur le sol en bois. Le corps de Victor s'écroula lourdement. On entendit le hurlement collectif de 6000 détenus. L'officier se précipita sur le corps du chanteur-guitariste en criant « Chante maintenant pour ta putain de mère » et il continua à le rouer de coups. Tout d'un coup, Victor essaya péniblement de se lever et, comme un somnambule, se dirigea vers les gradins, c'est pas mal assuré, et l'on entendit sa voix qui nous interpellait « On va faire plaisir au commandant ». Levant ses mains dégoulinantes de sang, d'une voix angoissée, il commença à chanter l'hymne de l'unité populaire, que tout le monde reprit en chœur. C'en était trop pour les militaires, on tira une rafale et Victor se plia en avant. D'autres rafales se firent entendre, destinées celles-là à ceux qui avaient chanté avec Victor. Il y eut un véritable écroulement de corps, tombant criblé de balles. Les cris des blessés étaient épouvantables. Mais Victor ne les entendait pas. Il était mort.
Récit de Michael Cabzas, écrivain emprisonné avec Victor Jara. D'après le journal L'Obs avec Rue 89, le 21 octobre 2013.
Ser libres y como seres humanos.